Donc, on va poursuivre avec le docteur Laurent Chevalier sur le protéger la femme enceinte et le nouveau-né des perturbateurs endocriniens. Quelle stratégie ? Donc, vous êtes médecin nutritionniste au CHU de Montpellier.
Alors, oui. Donc, mais je suis aussi en clinique. Et en fait, ça a été plus simple de mettre des choses en place en clinique. D'une part, à la clinique du Parc, où on a monté une petite unité de médecine environnementale. Et puis, surtout, il y a une demande de la maternité d'une des cliniques à Clémentville, qui, toutes les deux cliniques, adhèrent au C2DS d'Olivier. Et dans la maternité, bien entendu, André, on a commencé par réfléchir aux dispositifs médicaux. Et on a plus de 90% des dispositifs qui sont sans phtalates. Donc on a commencé par ça. À partir de là, de la part de la direction de la clinique, il y avait une demande très forte qui répercutait les demandes des femmes enceintes. Comment se protéger, mais de façon extrêmement concrète. Donc je vais vous expliquer à peu près ce que leur dit. Ça, c'est une diapositive de Gilles Nalbonne que tout le monde connaît sur l'importance, finalement, de cette prévention qui démarre pendant la grossesse compte tenu de l'extrême vulnérabilité du fœtus. On s'attache aussi à hiérarchiser les problèmes. Ainsi, il faut quand même commencer par, je dirais, le tabac, qui contient un certain nombre aussi de perturbateurs endocriniens. On explique aux femmes enceintes que surtout, pour tout un tas de raisons, on leur explique ça de façon très détaillée, il faut commencer par ne pas fumer, parce que s'occuper du formaldéhyde et tout ça, c'est très très bien, mais on commence par le début et on cherche à hiérarchiser les choses. La deuxième chose, dans les conseils simples à donner, c'est des conseils alimentaires. Jusqu'à présent, les conseils sont alimentaires au niveau des femmes enceintes sont quand même assez limités. Il y a une brochure du PNNS qui est bien. Je pense qu'il faut vraiment la réactualiser par rapport à tout ce qu'on sait maintenant. Toujours est-il qu'elle nous sert de référence, bien entendu, pour un certain nombre d'aspects. Nous, on va un petit peu au-delà sur, bien entendu, la protection contre la listériose, la toxoplasmose. On va un petit peu au-delà par rapport aussi à la caféine. Enfin, le document en parle. Les boissons gazeuses light prises quotidiennement qui possiblement peuvent majorer le risque d'accouchement prématuré. Pas trop non plus de soja. Faire très attention à l'alcool, évidemment. Donc, ce qu'on explique, c'est que s'il y a une période dans la vie où il faut manger bio, c'est bien pendant la grossesse. C'est quelque chose qui est tout à fait fondamental. Pourquoi ? Parce qu'on a un certain nombre de pesticides organophosphorés qui sont des perturbateurs endocriniens. Donc, c'est simple. Après ça, bien entendu, ce qui est intéressant, c'est qu'on limite l'exposition aux produits chimiques, tout simplement. Donc, c'est ça qu'on leur explique. Après ça, arrive le problème, bien entendu, du coût. Et alors là, on a une réflexion sur, finalement, quelles sont les priorités. Eh bien, par exemple, les pommes, les poires, les pêches qui sont très largement consommées, vous allez les prendre en bio, les produits laitiers et les œufs. Déjà, eh bien, probablement qu'on évite une exposition aux pesticides de façon importante. Après ça, il faut aller au-delà par rapport à la viande où les animaux sont mieux nourris, etc. Mais ça fait partie des choses simples qu'on peut mettre en application tout de suite. Ensuite, bien entendu, faire attention à tous les produits gras. Déjà, les produits gras sont déconseillés sur le plan nutritionnel puisque chargés d'origine animale, chargés en acides gras saturés. Mais en plus, ils accumulent les POP, donc les polluants organiques persistants. Il faut faire attention aussi à un certain nombre d'additifs alimentaires que l'on peut trouver dans l'alimentation. Alors, si c'est des expositions occasionnelles, ça n'a probablement pas d'impact, ça n'a pas été évolué, mais ça n'a probablement pas d'impact. Par contre, on fait attention sur des expositions répétées. Par exemple, c'est tout à fait surprenant qu'on trouve encore du E320 dans une alimentation destinée aux femmes enceintes, et d'ailleurs du BHA, et d'ailleurs aussi pour les jeunes enfants, donc il faut faire attention. Parallèlement, par exemple, pour les parabènes, le E214 à E219, toujours dans le cadre d'une réflexion sur la hiérarchisation, eh bien, il est moins nocif dans l'alimentation que quand il est appliqué par des crèmes, puisque une partie des parabènes sont détruits par les sucs digestifs et que de toute façon, les aliments eux-mêmes contiennent, par exemple la framboise contient elle-même des parabènes comme conservateurs. Donc, il faut hiérarchiser à chaque fois les choses, mais bien entendu, plus on limite les additifs alimentaires, globalement, mieux ça vaut. Il faut faire attention aussi aux emballages, on vient de vous en parler, par rapport au plastique, c'est-à-dire qu'on cherche un petit peu bien les numéros qu'il y a, le numéro 7, 3, 6, effectivement. Donc le 7 peut contenir du bisphénol. Le 3, si c'est du plastique d'origine étrangère, parce que dans les numéros 3 français, il n'y en a plus, mais on ne le sait pas. Et le 6, ça peut être des alliages. On fait attention aussi aux ustensiles de cuisine, bien entendu, puisque les revêtements de poêle peuvent contenir des perfluorés. Eh bien, s'il y a aussi un moment donné où on change un petit peu sa batterie de cuisine, c'est à ce moment-là. On peut tout simplement acheter une poêle en inox, mettre un tout petit peu d'huile. En plus, ça évite les points de brûlure. Donc l'huile va mieux répartir la chaleur. Donc il ne s'agit pas de faire des fritures, c'est pas ce que je veux dire. Mais disons, on a des conseils de ce type-là qui sont donnés, en sachant que, par exemple, pour réchauffer dans les micro-ondes, il faut utiliser du verre ou entre deux assiettes. On évite les films étirables, puisqu'ils vont relarguer du phtalate dans l'alimentation, si vous le mettez au micro-ondes. Donc au micro-ondes, on met entre deux assiettes ou dans du verre. Donc on a tout un tas de conseils comme ça que l'on donne, la céramique aussi, en sachant qu'il faut faire là attention à la céramique, parce qu'il y a des céramiques d'importation qui sont pas forcément de très bonne qualité, mais on va choisir la norme française, de la fonte émaillée par exemple. Ensuite, se pose souvent la question de l'eau. Donc le match du robinet contre eau minérale. Globalement, on peut dire que l'eau du robinet assure une certaine protection, même si c'est pas encore, il y a encore des efforts à faire, bien entendu, en termes de résidus de médicaments, en termes de résidus de pesticides, etc. Mais pour ces eaux, il y a des contrôles qui sont faits, ils sont encore insuffisants, mais globalement, ça va plutôt en faveur de l'eau du robinet. L'idéal étant peut-être les eaux minérales qui sont dans des bouteilles en verre. En Allemagne, elles sont consignées, ce qui peut être une bonne idée. Je vous rappelle que toutes ces eaux minérales qui sont dans du plastique, c'est pas neutre. C'est-à-dire qu'actuellement, dans les procédés de catalysation de formation de ces plastiques, il peut y avoir des résidus qui passent dans les PET, il y a des résidus qui peuvent passer dans l'eau. Il y avait une étude allemande qui avait montré ça. Donc il faut être prudent, plus un recyclage absolument imparfait de tous ces plastiques. Donc il faut être prudent par rapport à ça, et puis prudent par rapport au discours. Après ça, qu'on ait trouvé quelques traces de pesticides, comme l'a révélé 60 millions de consommateurs il n'y a pas longtemps, c'était bien entendu, c'est pas du tout surprenant, puisque l'ensemble de la planète est en grande partie polluée. Donc on trouve effectivement des résidus de médicaments, de molécules chimiques, de toute façon dans l'eau souterraine. Donc c'était pas du tout surprenant ce qu'il y a eu. Après ça, il faut voir quel est le degré, bien entendu. Il y a aussi, alors là, au-delà de l'alimentation, des conseils très simples. Je ne veux pas passer en revue tous les produits nettoyage, c'est un petit peu compliqué, mais on leur apprend, par exemple, à utiliser du bicarbonate de soude, du vinaigre blanc, des choses comme ça. Je peux vous dire que les personnes adhèrent très facilement à ça, finalement. On leur donne des clés, on leur donne des moyens pour arriver un petit peu à ça. On donne aussi quelques noms de marques. On n'a pas honte de donner quelques noms de marques, puisqu'on a une demande aussi de ce côté-là par rapport à de nombreux produits d'entretien. Il y a bien entendu la cosmétique. Donc Olivier Thomas et André en avaient parlé déjà il y a quelques années. Donc là aussi, on donne des noms de marques. On donne des conseils très clairs aussi. Pour le nourrisson, attention pour le nourrisson. Dominique Lewizek connaît très bien ça aussi en pédiatrie à Caen. Je veux dire, c'est quelque chose qui est très très important. Pas de lingette, bien entendu. Et finalement, un des produits qui semble faire un peu l'unanimité au niveau des maternités, d'où seul en tout cas qui a une réflexion par rapport à ça, c'est le liniment oléocalcaire, qui est intéressant. Et puis sans ça, on a des gammes de cosmétiques bio qui sont pas mal. C'est pas forcément toujours l'idéal, mais elles sont plutôt pas mal. Donc nous, on n'hésite pas à donner des dons de marque, on n'hésite pas à aller vraiment assez loin dans le conseil. Et puis, pour terminer aussi, je voudrais juste faire un petit focus sur les vêtements et puis aussi les draps des enfants, les matelas des enfants, qui sont imprégnés de tout un tas de substances, mais inimaginables. Tous ces substances anti-feu, les polybromés qui sont émissifs, et quand tout à l'heure tu sais pas d'où vient parfois certaines contaminations, mais c'est hallucinant tout ce qu'on peut trouver dès qu'on commence à fouiller un petit peu. C'est quand même quelque chose qui est très très impressionnant. On leur dit aussi de faire attention bien sûr au bricolage, pas n'importe quel type de bricolage, de laisser le papa peindre la chambre, de bien aérer, de faire un petit peu attention à tout ça, de faire attention aussi aux meubles. Donc on a tout un tas de conseils. D'ailleurs, en fin de semaine prochaine, il y a un livre, enfin qui va sortir, que j'ai écrit, enfin 250 pages, sur justement tous les conseils qu'on donne dans le cadre de ces recommandations, en ciblant bien, nous, les femmes enceintes, les jeunes nourrissons. Et j'interviens très souvent dans les congrès des sages-femmes pour les sensibiliser. Elles sont très sensibilisées, parfois beaucoup plus que les médecins. C'est tout à fait étonnant. Et donc, on est en train de diffuser, et notamment grâce aussi à ce que fait Olivier Thomas, au niveau à la fois de l'hôpital et à la fois des cliniques. J'espère que maintenant, on va pouvoir basculer un peu plus. Enfin, je suis déjà au CHU, mais basculer un peu plus, parce qu'on a une lourdeur administrative dès qu'il y a quelque chose de nouveau, qui est un peu compliqué au niveau des CHU. Au niveau des cliniques, c'est quand même beaucoup plus facile dans la gestion, et puis avec l'aide de la mutualité aussi. Voilà. Merci de votre attention.